Si vous le permettez, nous allons reprendre les derniers exposés par Juan Carlos García Reyes, qui est un candidat au doctorat. Donc il est à pointe de la recherche. Quand on fait sa thèse, on est vraiment dans les dossiers, donc c'est là où on innove, et qui est spécialiste de l'histoire de la médecine, et notamment de la Croix-Rouge espagnole. Alors vous allez nous dire certainement beaucoup de choses sur cette Croix-Rouge espagnole, alors on vous écoute avec intérêt. Vous avez la parole.
Merci, merci Fabien. Bon dia, Pérez, I suppose. Sorry, I can try to explain in English the exposition because my French is not very good, but I try with the Spanish Red Cross at the Paris International Exhibition of 1867. Early Spanish Red Cross between the time 1863 and 1876 arose a philanthropic organization for the amelioration of the condition of the wounded in war, as one Red Cross National Society state. This paper approached the role played by the Spanish Red Cross in the Paris Universal Exhibition in 1867. It provides an analysis of the public collusion and speeches that were developed during the embryonic period of the organization against the backdrop of the exhibition. As Roger Cooter had said, it is necessary to reconsider the relationship between medicine and war by emphasizing the social and historical context in which they develop. Following this statement, Mark Harrison discussed the interbinomial concept of militarization and medicalization, which established the process in the second half of the 19th century. I will define the medical technology in which the action unfolded in this primitive Red Cross as more than medical device or kits. It will set the dominant and centralizing historical discourse. It is necessary to review the proposals from the local case and provide a more diverse and enriching historical view of the technology. The Paris Exhibition in 1867. The exhibition space is a demonstration of all sorts of objects and methods. The expos were a massive spectacle, a place to show the earnings of the progress and the model of civilization, the place to express and demonstrate the supremacy of the Western world in all spheres. The 19th century universal exhibition endowed an image of progress where machines were the predominant feature. According to classical historian John Burick, a first Greek exhibition in London in 1851, it was at the time optimistically regarded not merely as a record of material achievements, but as a demonstration that humanity was at last well on his way to a better and happier state through the falling of barriers and the resulting insight that the interests of all are closely interlocked. Barry says that the exhibition achieved its role on a material level with substantial technical equipment, but he did not forget about the sufferings of industrial workers, economic competition, or preparation for modern war. That also implied a development in which the very increase of material ease seemed inevitable to involve conditions inconsistent with universal happiness. Welfare provide a communicated space and identity to the city. The city became a witness to the organizational capacity of the country that welcomed the expo, and a scenario that showed the known world. The exhibition enabled the comparison and competition between host cities and, of course, the countries representing technological modernity. From the Great Exhibition in London in 1851, the expos were a popular forum for the idea of progress and the idea of Western civilization. So it was the space for checking the economic competition of the capitalist powers throughout the demonstration of one of the Greek 19th century symbols, the industry. The celebration of the universal exhibitions in the 19th century was the ideal place for all kinds of interaction. Having seen described by Werner Plun, as interdisciplinary scenarios of social history. They were intersect by elements of various kinds, from information and industrial innovation, education and technical training, communication and art, coupled to a network of congresses and conferences with international links. These events at World Exhibition of this period were considered by Werner Plum as didactic pies of cultural history. In the same way, John Bury said that the exhibition is to bring home to men's consciousness the community of all the inhabitants of the earth. One must consider the Universal Exhibition as a medium in itself and a didactic method in the mid-19th century, characterized by law school education among the masses. On the other hand, there was an internationalism character materialized in different international conferences, such as those born during the exhibition of 1867 in Paris, including congresses held about topics like homeopathic medicine, botany, geology, communication, weights and measure, etc., which were in many cases presidents of international organizations. In this space container, the new International Association of Society for Aid to Wounded campaign was present, and then commonly known as the Red Cross, sharing forums with other associations and humanitarian organizations, such as the International League for Peace, led by the French jurist Frederick Paz, or the United States Sanitary Commission, for example. The role of this commission, the United States Sanitary Commission, in the United States Pavilion was highly relevant. Its organizational experience during the Civil War in the United States and his sanitary material were paradigmatic for the European colleagues is very important. The Sanitary Commission had deployed a massive fundraising for volunteer management and healthcare experience to modern warfare. Enrique Swender, Spanish doctor and visitor during the international exhibition, highlighted correctly Sanitary Commission exhibition, composed of objects and models of the hospital and health organization based on the principle of dividing the resource for healing the wounded, in order to get faster assistance and easy to get to throw minimal training of every soldier. The Sanitary Commission's exhibition was held in a different and separate ward to the International Relief of Wounded Association. The expansion of the civil society model to help those wounded in war was not only limited to the countries of all Europe, also countries outside the Western Christian orbit, such as Turkey or Japan, were included in the civilized world and progress represented by the West, and they went to the Expos, where they converged with humanitarian ideas. The Universal Exhibition in Paris was the first large public forum of the organization, the Red Cross, and he made greater contact possible between the different national sections to be exploited as a framework for conference, for exchange of help and organizational methods, or for contact with industrial suppliers. It also allowed for a space of international confluence among factotums of war and medical professionals. The humanitarian and Red Cross characters at the Paris World Fair, there is components of the first international Red Cross, as happened in the case of the Spanish Red Cross, had been described sometimes under a framework of heroism of the old orders of chivalry. The noble condition of many of them and their membership of the military and religious orders arising from the time of the Crusades, like Mercedarians, Order of St. John of Jerusalem, the Teutonic Order, etc., was a first setting to locate them. Within this class, there were individuals like the Count of Ripalda for the Spanish Red Cross, Count Servier for the French Red Cross, Baron Jaromir Mundi in the Austrian Red Cross, or in the United Kingdom area for the St. John's Order, Kenneth Barrington or John Farley, promoter for the St. John's Ambulance. These people from the military order were directed to assist the wounded. Another important group was composed of lawyers like Gustave Moynier, co-founder of the International Red Cross Committee, or the Spanish jurist Antonio Balbín Urquera or Concepción Arenal. But there is another third group, including the military men like the Swiss General Guillain-Henri Dufour, one of the five members of the original Geneva Committee. But fourth, lastly, there was a group of military doctors involved in the search for military health reforms in these countries, such as Ricardo Solanda, quote before, Thomas Evans, and Edward Crane in the United States, and Charles Chenu, quote before too, and Léon Lefort in France, Thomas Longmore, quote too, in the United Kingdom, Louis Appia in Switzerland, Ferdinando Palaschiano in the Kingdom of Naples and then Kingdom of Italy, Bernard von Langenberg, and Ernst Julius Gould in Prussia and then the German Empire. But in my opinion, this last group were the most relevant in terms of the proposal expressed in international forums to convert the war as doctor with military and political elites. This military doctor interact at other with military and industrial stakeholders, for example, the industrial from Milano, Locati, industrial from France, Pichot, and they explore the possibilities of improving war medicine depending on funding from the military budget and partly from the charitable contribution as a dual mechanism to solve the evils of war without becoming an excessive financial burden on the state. As the active military doctor, such as Jean-Charles Chenu or Mikasa Landa, pointed in their respective armies. There were two prominent forums where the humanitarian and Red Cross chapters developed their interactions in Paris International Exhibition. The International Conference, first, the International Conference of Society of Assistance to the Military Wounded of the Armies and Navies and the Health Exhibition of the Red Cross Society. Sorry, I need to. Repeat. There were two prominent forums where the humanitarian and Red Cross charters developed their interest in Paris International Exhibition. First, the International Conference of Society of Assistance to the Military Wounded of Armies and Navies, and second, the Health Exhibition of the Red Cross Societies. A Spanish Red Cross member had participation in both. The Paris Conference, 1867. Philippe Arlanau, official historian of the Red Cross Committee, has considered the International Conference of the Red Cross as a suitable place to discuss from the beginnings of the organization. But what was the starting point of the conference? The Austro-Prussian War, or Seven Weeks War, of 1866, revealed new indication to the International Association for the Relief of the Wounded. The Geneva Convention was insufficient during this war. Different societies of assistance analyzed this situation and considered that it required to hold a new international conference. The conference was called in Paris in August 1867, as the organization was used to coincide with the health exhibition. What were the agreements and proposals of the conference? At this conference discussed the imperfection of the Geneva Convention. It was the opportunity to review the articles of the convention. After the conference, the International Committee proposed it to the nation that signed the agreement in 1864. This conference made an amendment to the Geneva Convention and expanded some of his articles, but it also laid the foundations for various technical issues of special relevance in the system provided by relief society. For example, transportation of the wounded by the railways with ordinary wagons, battlefield hospitals, tents and barracks in all climatic variables, of the need to illuminate the battlefield, so there is not need to suspend the release of the bonded or disinfecting hospitals and ambulance in the battlefields. Saturnino Jiménez Enrique, official historian of the first Spanish Red Cross, highlight that the Spanish delegates took active participation in discussion and some of the committees of the conference. Amon, Spanish delegates at the conference, Nicasio Landa was outstanding. Landa explained in discussions with COVID the most expeditious means to remove the bonded from the battlefield and to facilitate access to the members of the AIDS society. On the other hand, Landa defended that neutralization of the bonded was absolutely indispensable. In fact, he explained that the word neutralization was a little vague, and maybe it could be changed with the word safeguard. Regarding another topic of the conference, the preparation of societies of aid to wounded in peacetime, Landa considered very necessary in improving the work of the movement in peacetime. For this reason, getting volunteers in tasks of nursery, the preparing of dispensaries in different populations, useful and inexpensive, staffed by volunteers, might be a prioritary goal. Another issue discussed at the international conference was the possibility of a unique symbol for the organization. The Spanish committee, through a proposal submitted by Landa, said to have a distinctive site. Originally, it's on the left side of the picture. But the stand displayed a steel royal crown in the middle, of white over cloth, holdful of equal parts red, flat tape around the legend in hot signo salus, and white ribbon outside International Relief Society to injure. Spanish assembly at the bottom and stick to the seal at both ends of the cross. The Red Cross symbol with white background was approved on September 2, 1868, on the right side of the picture. The iconography of different members of the organization, which include the Knights of the St. John, the Sisters of Charity, and other charitable institutions. This show understand the importance of a distinctive pattern of social and moral prestige as a means of self-aggrandizement. Not surprisingly, the early Spanish Red Cross Committee was made up of nobles or liberal professionals. Therefore, also the list of rewards and enumeration in Paris was gladly distributed among the members of the Spanish Red Cross Assembly at Madrid. The Health Exhibition in Paris. The exhibition of medical equipment was another highlight of the International Committee for Relief of the Bonded. The health position of the organization was located on the Champ de Mars, the main venue of the World Fair. The precise location was the Ministère de la Guerre de la France pavilion. This was portrayed by contemporary witnesses like the Spanish journalist Francisco Arellana, demonstrating the formation of a museum for the exhibition provided by 20 nations and consisting of 1,200 articles intended to redress the wrongs caused by war. Some devices very important in this health exhibition were the Palasciano stretcher, Gobin stretcher, before orthopedics, Crane 10, Mundi ambulance, the superior part of the picture, and the Evans ambulance in the middle, and Harris railway ambulance. The Spanish contribution include a limited number of innovative healthcare war devices. One carriage with two wheels, called Angit carriage, a stretcher designed by Jorge Florida Roldán, a pack of relief aid to the wounded on the battle lines, quarries and public wars, carried out by Pedro Gorriz, marked the celebrated design of a sanitary apron of relief to remove the wounded from the battlefield by Nicasio Landa. In all these cases, the designs of new devices where we met some year before, between 1864 and 1865. But the building of this sanitary piece will be sold in the Paris Hell Exhibition in 1867. Sorry. And give carriage, carruaje de las ruedas, and give the doctor Francisco and give Malo de Molina, Spanish military doctor, has made different devices for the Spanish military medicine, such as the sacabalas and give bullet extractor, 1859, the silla and give chair in 1860, or the torture and give tourniture, 1865. Based on the Swedish chair for the transportation of wounded. For this exhibition, Dr. Anguit showed a new carriage with two wheels for the transportation of wounded. The animal traction was the main source for this coach. The first design of this carriage was of 1864. The description of this carriage is the two-wheeled carriage was mounted on crossbows, ready for a single horse. The interior of this carriage is made of wood and assembled with a bolted ceiling and a small square window in the front wall. The side walls are completely open to the outdoors, with three windows on each side, covered on the outside of the carriage with waterproof curtains. Inside the car, there are two berths as seats. Besides, this is his rear carriage. Carries a large drawer that can hold clothes or healing material. In the front of the car, there was a seat for three men or wounded, placed on a cushion, and leather front cover is a waterproof hood and a curtain to protect from the weather. The carriage goes outside lined with seat iron. The follow device is the Camilla Florid stretcher. This stretcher was designed in 1865 by military doctor Jorge Florida Roldán, but the Florid stretcher was based on different models of Spanish stretchers, Parihuela, Anel stretcher, etc., and the Graefe stretcher, an old German stretcher model built with two rifles. The Florid stretcher was made with the Spanish rifles, carabinas, of 1846. This device could be made with the 10 shelters and rifles were also converted into foot stretchers, this bayonets format. But they had the further disadvantage of distorting the weapons. Here there is a commentary by a military journal from France about the Florid stretcher. But the another device is the Mochila Gorrit, Gorrit Patos Relief, aid to the wounded on the battlefields. Mochila Gorrit is a design by Pedro Gorrit. This part was designed in 1865. But Pedro Gorrit was an industrial and plate wright from Pamplona, Navarra. His device had also civil use, such as the treatment for assistance in mining or public works. This system facilitated the transport of the kit in frontline combat. His dimensions were small and had essentials. And the chrome pies is the Landes apron. Landes apron is this courier system of the transport for wounded was designed by Dr. Nicas Holanda, Spanish military doctor and outstanding promoter of the Red Cross humanitarian idea, but the apron was designed in 1865. Holanda published the details of the apron in a pamphlet titled Mandil de Socorro, Nuevo Sistema para el Levantamiento de los Heridos en Batalla, Apron of Hell, New System for Lifting the Wounded in Battle, in 1865. But it also had a French translation for his international impact, published in Spain in 1865, with the title Le Tablier de Secours, Nouvel Système pour le Levain de Plaisir dans la Ligne de Bataille, de Mateo, in Pamplona. The apron allowed easy transportation of the wounded with a reduced financial cost. Unlike the stretchers, the Landa's apron was very little heavy. In addition, any soldier could help the person wearing the Landa's apron to transport the wounded. This device had an important outcome in some sanitary service of world national committees of the Red Cross, such as Italian SAT Milanese Comite, the Italian modification of Landa's apron, as saw it in the exposition. But the Spanish press called attention about the Spanish Red Cross contribution and overall the prize received by the Spanish innovation. But there is critics like the Spanish journalist Francisco Orellana writing that there is something more in this arsenal of peace and charity, the guns, shells, and cannons. But is this really delayed? Committees for relief or the bonded will be not necessary. His commentary by this journalist is provoked because the Hell exhibition was close to the military and industrial service of the ministry of the ministry of the war. So the Spanish Red Cross will be originally a humanitarian organization more complex than a handful of gentlemen gathered for the assistance of the wounded in war, but rather it will be linked to the excesses of capitalists derived from imperialist wars in his dark phase and his necessary management of the health service at war. His participation in the warfare will be understood in a dual meaning. In this sense, historian Thomas Haskell explained that the capitalist rise of the mid-19th century had a decisive influence in shaping humanitarian sensibilities for the resolution of the problems of industrialists. We could observe the origins of the organization as a strange paradox of humanitarian emotion and the requirements of the new industrial world. Landa's intervention in the Paris Conference was the result of this perception as a military physician experienced it in the battlefield and knew the military logic. Between guns or a medical equipment, always the fair option convinces an army general. Pragmatism and the economy of means is also imposed on material exhibited by a Spanish organization. The device easy to build, cheap, but also wanted to be adapted to the new canons, pursuing that the wounded would treat it with the greatest possible comfort. Thank you.
Merci beaucoup, chers collègues, pour cette intervention, qui ouvre aussi tout un champ de perspectives, évidemment, par rapport au rayonnement ou à la diffusion de la Croix-Rouge. Alors, est-ce qu'il y a, à ce propos, des questions, des réflexions, commentaires, à la suite de l'exposé de notre collègue Garcia Reyes? Roger.
Je remercie M. Garcia Reyes de cet exposé qui élargit notre champ de vision, parce que nous savons que la Croix-Rouge naissante a puissamment contribué au progrès du matériel sanitaire médical. C'était un des points que nous souhaitions voir traité. Alors merci de l'avoir traité. Puisque vous avez étudié un peu, je pense, cette exposition de 1867. La tradition veut qu'il y avait le buste d'un certain nombre de ces caractères, comme vous avez dit, de ces personnalités de l'humanitaire, dont le buste d'Henri Dunant. Et que Henri Dunant, arrivant dans le pavillon de la Croix-Rouge, Il est donc dans un état dépressif, il a fait faillite, il est persona non grata, non seulement à Genève, mais aussi dans certains milieux. Il voit le buste et il dit « ôtez-la ». Je n'ai jamais rencontré la moindre preuve matérielle de l'existence de tels bustes. Est-ce que vous, dans vos recherches sur l'exposition, vous en avez entendu parler?
I don't understand very good. Es que no, I had not sufficient information about the Henri Dunant commentaries about this part of the exposition. I know there is in the garden of the exposition, there is a statue, the heap, the. Sí. No. No, I have not a picture of Henri Dunant. Sorry.
Picture. Encore une enquête, hein? Okay. On aura Sherlock Holmes. Alors, d'autres remarques par rapport à cela? Si ce n'est pas le cas, je tiens à vous remercier.
Merci.
Pour cette exposition, pour cet exposé sur l'exposition. Et si vous le permettez, je vais passer à quelques petites conclusions, puisqu'on m'a demandé de le faire si possible. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir éplucher les rapports qui ont été présentés hier, puisque je n'avais pas pu prendre part à la journée d'hier, mais de façon générale, je tiens quand même à souligner qu'il y a quelques mois, quand Roger Durand m'a parlé d'un projet de colloque pour lequel j'aurais bien voulu aussi me mobiliser, mais j'ai dit, mais mon cher, qu'est-ce que tu peux faire en quelques mois, entre octobre et février, pour mobiliser des historiens compétents et disponibles? Alors, mon scepticisme était, voilà, peut-être qu'on pourrait faire un workshop, réunir quelques personnes que tu estimes intéressés, qui pourraient fournir quelque chose et préparer un grand colloque. Et puis voilà que ces deux journées ont été mises sur pied, j'en ai reçu le programme et il m'a quand même mobilisé pour un petit peu quelque chose, c'est-à-dire présider une des sessions de ce jour et peut-être apporter quelques réflexions conclusives. Alors au regard du programme, c'est vrai, et maintenant il a été accompli, il est déjà extrêmement riche, grâce à la participation de vous autres, les historiens et spécialistes de l'une ou l'autre question. Et je tiens à vous remercier, à vous féliciter d'avoir en si peu de temps pu rassembler des données, des informations et arriver avec une synthèse ici. Certes, l'un ou l'autre de nos collègues nous ont bien dit qu'il s'agissait de petites notes préparatoires, research notes, premier essai. Je vérifierai, j'aurai quelques temps pour maintenant aller approfondir ces recherches, ce qui est tout à fait à leur honneur de pouvoir ainsi montrer qu'eux-mêmes, vu de leurs compétences, ils ont ouvert un chantier, comme on dit, donc ouvrir des perspectives, et qu'il ne faut pas se contenter de généralités, mais arriver avec le souci de vérifier des hypothèses de travail, et quand on a l'hypothèse qui paraît plausible, d'aller voir ensuite les documents qui pourront attester de la faisabilité ou de la véracité de certaines suppositions ou perspectives. Alors pour résumer, dans cette première section qui a eu lieu hier, ce qui me frappe, c'est qu'on a effectivement là une série d'exposés, 5-6 exposés, qui au fond apportent très bien une contextualisation de la problématique qui voulait être analysé ici, c'est-à-dire les médecins militaires. Qu'est-ce que c'est que cette caste, n'est-ce pas, et qui s'intéresse à l'humanitaire, et qui s'intéresse à porter secours, donc il y a presque une étape préalable à l'émergence de l'organisation d'une Croix-Rouge. Donc, quel était l'état de la situation par rapport à cela? Et j'ai trouvé très intéressant ce contexte idéologique, moral et intellectuel, que je pourrais dire qui prépare, qui sont comme des éléments préparatoires de l'émergence d'une médecine militaire d'abord. On en a vu les tâtonnements, même dans le cas de la France, qui était pourtant un pays à l'avance à l'époque, n'est-ce pas, mais on était un peu en avance à la fin du XVIIIe. On retombe un petit peu avec Napoléon, on va refaire progressivement surface vers une professionnalisation et une spécialisation de ces médecins militaires. Et encore fallait-il voir si cette caste, cette nouvelle corporation de médecins militaires, avec des spécialisations qui s'annonçaient déjà, allait être sensible à leur objet, c'est-à-dire les blessés qu'il faudrait soigner. Est-ce qu'ils y apportent déjà un indice d'humanité, de charité chrétienne, comme on disait à l'époque dans les pays dits civilisés, hein, c'est-à-dire c'était un devoir de charité chrétienne, et c'est mieux comme le monde, toutes les grandes civilisations ont traité ce problème des victimes. Hein, ce n'est pas l'innovation du 19e siècle avec leur façon de traiter aussi les prisonniers. Mais c'était ce qui m'a paru tout à fait original, c'est revenu dans les autres exposés, mais je le vois dans les titres, évidemment déjà d'hier dans la première section, c'est cette idée, nous sommes une profession et nous devons traiter le blessé quel qu'il soit. C'est-à-dire cette idée d'impartialité dans le traitement des victimes de combat, ici limitée aux blessés de guerre. En quelque sorte, on va ici, on assiste à ces exposés, je ne l'ai pas suivi, mais d'après les titres que me suggèrent les titres, c'est qu'on va en quelque sorte passer d'une conscience philanthropique qui dominait au XIXe siècle à une action charitable de secours aux victimes. Entre d'avoir une position théorique, c'est une chose, mais de passer à l'action, c'est une autre chose. Et on voit effectivement là, dans cette première section, tout ce contexte qui montre, idéologique et moral, qui montre qu'on commence à se préparer à cette perspective-là de porter secours aux victimes, quelles qu'elles soient. Dans la deuxième section, que je n'ai pas pu entendre malheureusement, m'en excuse, là on assiste aux pionniers. Ces diverses communications traitent effectivement des pionniers de la médecine militaire, et le début de l'affirmation d'une doctrine devant régir le traitement des blessés de guerre. Pourrait-on élaborer effectivement des principes qui seraient, comme il y a le vœu d'Hippocrate ici, quand on est médecin militaire, est-ce que j'ai le principe de devoir pratiquer ma médecine à n'importe lequel, donc des blessés de guerre. Alors là, nous avons eu un certain nombre de ces pionniers, vous avez un Suisse, un Genevois, vous avez, ce qui domine, est très intéressant, les Italiens. C'est vrai que les Italiens sont l'initiateur de beaucoup d'idées, de beaucoup de principes, et c'est aussi le hasard, sans doute, de l'organisation qui nous a permis d'avoir des collègues italiens qui sont venus nous parler de leurs médecins militaires, qui, au pluriel, mais qui s'expliquent aussi par le fait que l'Italie est un ensemble pluri-étatique. Il y a encore à l'époque moult États italiens, et donc ce problème a préoccupé les sociétés dans ces divers milieux, indépendamment du fait que les médecins pouvaient se connaître aussi d'une région à l'autre ou d'un État à l'autre de l'Italie. Vous avez eu aussi sur le médecin belge, et puis, effectivement, nous avons là des modèles de personnages, on a vu aujourd'hui, évidemment, souvent à fort caractère, qui ont été ces pionniers de la médecine, qui se sont posés déjà, dans ces exposés, apparaît déjà, effectivement, ce principe, effectivement, à la fois du volontariat, mais aussi de la neutralité des acteurs de l'action de secours, mais aussi de la neutralité, si possible, du blessé en tant que tel. Alors voilà pour la journée d'hier, ce que je peux dire d'après mes intuitions, mais enfin on pourra toujours commenter mes conclusions peut-être tout à l'heure. Hier soir, j'ai aussi le privilège, mais tous ceux qui étaient l'ont senti, d'assister à une conférence qui s'inscrivait parfaitement dans ce qui nous préoccupait ici, c'est-à-dire comment un grand artiste, un grand peintre, Goya, s'est s'est converti lui aussi. Il y a un cheminement, on l'a très bien vu par les divers dessins qu'on a vu entre la frivolité des premières esquisses, la bonne société, et puis comment ce grand peintre a été happé par les conflits qui ont marqué la péninsule ibérique et avec des horreurs qui ont amené Goya progressivement à devenir un de ces inspirateurs du pacifisme, même si tous les pacifistes ignorent évidemment ces terribles tableaux que nous avons, qui ont défilé hier soir et qui l'ont convaincu lui, mais aussi qui semble amener effectivement la société, l'opinion publique, c'était sans doute son souci, à se jeter contre la guerre, à se mobiliser contre la guerre, et au pire, ou par défaut, au moins de penser les plaies de la guerre de façon neutre, en quelque sorte, ce que toutes les victimes des guerres et toutes ces horreurs, pourquoi ne pas aider, n'est-ce pas? Il y avait ces tableaux extraordinaires qu'on a vus hier sur l'appel au secours, à la charité et au fond l'indifférence aussi de tout un morceau de la société indiquée par Goya qui semblait passer au bord de ces misères et que quelques personnes seulement daignaient s'intéresser à porter secours aux victimes. Voilà pour cette conférence que j'estime tout à fait être un point important de ces deux journées. Enfin, dans la journée d'aujourd'hui, nous avons eu droit, effectivement, dans cette séquence, à toute une série d'exposés, et aussi non seulement des individus, mais aussi des groupes de ces milieux militaires, où l'on voit aussi émerger, de façon très lente, souvent difficile, avec des allers-retours, de ce principe de la neutralisation du médecin, de l'infirmier, des blessés, avec effectivement là des nuances d'un cas à l'autre. Ce qui m'a personnellement surpris, c'était la difficulté extrême de voir accoucher, effectivement, au sein de ces milieux compétents, cette idée genevoise. Cette idée genevoise. Et là, manifestement, on devrait pouvoir quand même conclure ici, par rapport à cette problématique, que sans l'appel de Genève, on peut s'interroger quand est-ce que dans ces armées très professionnelles qui se mettaient en place avec les nouvelles techniques, hein, on est en pleine vague industrielle, les nouvelles armées se développent, les nouvelles armes, les nouveaux moyens de communication, les premiers chemins de fer, etc. Et comment, effectivement, cette idée du secours aurait émergé de façon neutre s'il n'y avait pas eu ces trublions de Genève, de Dunant en particulier, qui avait pris son bâton de pèlerin pour aller effectivement secouer les consciences, on peut s'interroger à quel rythme de telles initiatives auraient émergé, puisque nous avons vu qu'il y en avait, antérieurement de ces idées de prêter secours, de parer effectivement aux guerres, mais entre le mouvement pacifiste qui disait non à la guerre, mais qu'on ne peut rien faire puisqu'on ne pouvait pas les arrêter, puisque les guerres sont encore des fatalités, et puis l'idée qu'on peut effectivement remédier au mot de la guerre par des initiatives, non pas prises par l'autre, mais par soi-même, au profit de l'autre, il y avait quand même un long chemin à parcourir au niveau des consciences, et c'est ce long cheminement qui est ressorti effectivement de ces exposés, qu'il s'agisse des milieux militaires français, où il y aura encore beaucoup de choses encore à élucider au niveau de, entre les milieux militaires et ce milieu de secours autour d'eux, qui fait que finalement l'idée triomphe, alors qu'on y va plutôt à reculons du côté des professionnels, et puis que ce soit même dans le cas de la Suisse, ce qui a été examiné, et on aurait encore beaucoup de choses à élucider de ce point de vue-là, sans oublier évidemment le parcours remarquable du collègue spécifique. Je ne dirais pas le prophète lambda espagnol, mais la manière dont notre collègue vous l'a présenté, nous avions vraiment là une colonne vertébrale d'un homme qui s'est vraiment lancé, avec succès, évidemment, dans la mise au point de cet idéal de Genève. Aurait-il eu l'idée par lui-même de convaincre son équipe, puisqu'il était déjà officier militaire, n'est-ce pas, avant de s'engager dans la dynamique genevoise, est-ce que de lui-même, il aurait aurait réussi à développer, effectivement, dans le cadre de l'état-major espagnol, ses activités et ses principes de secours aux blessés. Sans doute que l'impulse de Genève a aussi été quelque chose qui a dû effectivement le pousser en avant, le docteur Landa. Et idem pour le grand Thomas Longmore, que nous ne connaissions pas évidemment, qui a fait l'objet d'une longue et détaillée présentation par Peter van den Longen. Effectivement, là, du point de vue de l'Angleterre, qui ne l'oublions pas quand même à l'époque, est la superpuissance, le mot n'existe pas. C'était la grande puissance de l'époque, présente sur tous les continents, qui était sans cesse en guerre de divers niveaux, soit avec les concurrents impérialistes, soit pour la maîtrise de son empire, qui avait eu les traumatismes du détachement des 13 colonies d'Amérique du Nord, enfin on ne l'a pas digéré au XIXe siècle. Donc tout cela fait que l'Angleterre se considère quand même comme le guide des nations, aussi au niveau de ce qu'on a dit de la supériorité de la civilisation. L'Anglais se comportait, le plus petit des Anglais se comportait de façon supérieure, on le sait, dans l'Empire. Donc c'est quelque chose on a tendance à perdre de vue de nos jours. Et là aussi, il y a eu cette intériorisation, cette mise en œuvre, évidemment, d'un service Croix-Rouge dans le système sans doute de l'Empire britannique. Il faudrait voir des études plus détaillées, parce qu'il y a le Canada, l'Australie, qui deviennent des dominions très autonomes avant d'être presque émancipés. Comment, là aussi, ce message est passé de façon plus autonome et qui reflète le triomphe, d'une certaine façon, des idées de Genève, enfin de Croix-Rouge de Genève, dans ces sociétés un peu partout dans le monde. Enfin, dans la dernière section, nous avons droit aussi à entendre là deux personnages très très intéressants, effectivement. D'abord en ce qui concerne la Prusse, qui n'est pas l'Allemagne, c'est une partie de l'Allemagne, d'abord une partie importante, certes. Ensuite, la Confédération du Nord, le fameux Loeffler, qui a été si bien présenté par notre collègue Rainer Schlösser, et qui montre là aussi ce long cheminement, mais qui donne une sorte de, qui permet de faire une petite passerelle avec le tout dernier exposé, de montre que, ne l'oublions pas, la Prusse à l'époque était à la puissance montante, la puissance à la technique progressiste, pays en voie d'industrialisation. Les lois sociales étaient déjà quelque chose qui était une préoccupation de l'État de Prusse, alors que dans d'autres pays d'Europe, on en était loin. Donc là, j'étais pas très surpris que ces idées, évidemment, de management, des dégâts collatéraux des guerres que sont les victimes, des humains, puissent être prises en charge et de façon assez dynamique de la part de Loeffler, et puis qui a su convaincre, et puis d'autres aussi qui encourageaient dans la même direction. Certes, là aussi, j'ai peut-être un regret, l'Allemagne étant plus grande que la Prusse et plus grande que la Confédération du Nord, il serait intéressant de voir comment dans des États plus petits, plus limités, le Bade-Württemberg, le Bade, enfin bref, tous ces duchés, grands-duchés et royaumes de Bavière, comment dans ces États-là allemands, entre l'Autriche et la Prusse, on s'a aussi saisi effectivement l'idée de Genève, d'autant plus qu'on sait que Dunant avait lui personnellement des liens très importants, intimes presque, avec toute une série de familles, de personnalités de cette Allemagne-là. Et je sais que M. Schlösser en avait déjà discuté, il ne peut pas tout faire, puisque autant d'États, autant d'archives, et ça c'est un grand défi, il faudrait toute une équipe pour peut-être élucider toutes ces curiosités, mais qui seraient quelque chose qui permettrait de mieux remplir le tableau, en quelque sorte, si l'on voulait arriver à une véritable histoire comparée des prises de position des uns et des autres au niveau de l'idée de la Croix-Rouge. Quant à l'exposé, évidemment, sur Abdullah Bey, c'était aussi tout à fait novateur, c'était un heureux hasard, je pense, que vous ayez pris d'ailleurs ce sujet-là, parce que vous auriez pu en prendre un autre, hein, M. Schaumann, Et là, vous nous avez ouvert effectivement aussi vers d'autres perspectives, vers d'autres horizons, et montrant là aussi toute la complexité, au-delà de la problématique évidemment de l'emblème de la Croix-Rouge qui a eu une brûlante actualité il n'y a pas si longtemps ici à Genève, François Bunion y a fait allusion, et qu'effectivement là, nous avons déjà un premier cas d'école extrêmement intéressant sur cette expérience, dans ce temps limité qui était le vôtre, d'une Croix-Rouge devenue Croissant-Rouge après votre période, en fait, traité ici que vous avez évoqué et qui mérite effectivement, qui intéresserait d'ailleurs tout un public. Si on voulait faire un jour l'histoire de la création des divers comités Croix-Rouge dans les divers pays du monde, vers l'universalisation, pas seulement l'européanisation de l'idée de Croix-Rouge, mais leur universalisation, et ça, ce sera d'autres colloques que Roger Durand sans doute en tête, puisqu'il a alors marqué les éléments. Enfin, le dernier exposé qu'on vient d'entendre me suggère aussi que là, ça montre à quel point cette idée de secours aux victimes des guerres s'inscrit parfaitement dans la modernité qui traverse, qui marque ce 19e siècle. Maintenant, on n'est plus au 20e siècle, au 20e siècle, attendez, ça dit que le 19e siècle est un siècle obscur, romantique, plein de choses arriérées, et que nous, le 20e siècle, on allait innover. En réalité, ce 19e siècle est le siècle où domine le progrès, l'idée de progrès qui est morte. Elle n'existe plus, l'idée de progrès, plus personne ne parle de progrès. Or, c'est le progrès qui va donner, non seulement au niveau des idées, mais alors là, comme ça s'est très bien sorti, et ça, c'était le but des expositions universelles, c'était de montrer le génie des hommes dans les nouvelles techniques. Et comment ça s'est traduit au niveau de cette nouvelle initiative de secours aux blessés, donc de la guerre elle-même, évidemment, et du secours aux blessés, c'était montrer une nouveauté, c'était montrer un progrès, non pas technique, mais de l'humanité, puisque, à l'époque, on tient des discours solennels sur le devoir des civilisations supérieures. Et l'Europe est convaincue d'être une civilisation supérieure, et la civilisation, elle sera d'autant plus supérieure qu'elle devient de plus en plus industrielle et technique. On y a cru. C'était des nouvelles tendances de l'époque, et c'était vraiment très intéressant, de mon point de vue, de voir inscrit votre propos dans cette perspective-là, puisqu'au fond, il y a là, effectivement, une tentative de conscientiser, comme on dit, les masses à l'heure de la Croix-Rouge. Alors la question ultime que j'aurais par rapport à cette problématique, qu'en est-il finalement de la Croix-Rouge? Voilà un travail. Qu'en est-il de l'exposition de la Croix-Rouge dans les diverses expositions universelles? Je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus, je l'ignore. Et a fortiori dans les expositions nationales, puisqu'effectivement il y a les Croix-Rouges nationales. Est-ce qu'elles estiment utile d'être là dans ces expositions qui sont censées mobiliser les opinions publiques et en même temps illustrer les bons côtés de la société? Je ne me souviens même pas si dans les dernières expositions nationales suisses, il y avait un pavillon CICR ou Croix-Rouge suisse. Je crois qu'il y a quelque chose sur la Croix-Rouge suisse, mais je ne pourrais pas le certifier. Voilà un petit peu mes quelques réflexions que m'ont inspiré vos sujets et puis vos exposés de cette journée. Je crois qu'une des conclusions que nous pouvons faire au niveau de l'historien de la profession, c'est qu'il y a encore un énorme chantier. On a construit quelques éléments. Il y a encore bien des étages et des passerelles à mettre en place si l'on veut élucider et mieux comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Et je trouve très intéressant de faire cela, puisque, François Bunion ne va pas me contredire, si l'on se rend compte ces 20 dernières années, les mutations pratiquement qu'a dû subir ce même CICR et les actions de la Croix-Rouge, je crois qu'il peut être toujours utile de revenir aux sources, de venir que tout cela prend du temps. On a vu entre les années 40 du 19e siècle et les années 60, quel cheminement entre des premières intuitions qu'il faudrait faire quelque chose et puis les premières actions concrètes, en quelque sorte d'action, de secours, dans des vrais conflits qui commencent aussi, enfin qui existent, et qui sollicitent effectivement, qui servent de test, d'une certaine façon, à ces heureuses initiatives. Voilà, je tiens à vous remercier. Je sais que Roger Durand a encore quelques mots, ou quelqu'un voudrait peut-être faire un commentaire aussi. C'est peut-être ouvert, je ne sais pas si tu...
Merci Antoine de cette synthèse. C'est toujours un exercice très difficile à chaud. C'est bien précieux que tu aies fait cette démarche qui nous permet de lier la gerbe. Alors tout d'abord, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite encore s'exprimer? Il le peut, on est fatigué. On a eu deux journées très bien remplies, même une soirée encore. Mais si quelqu'un souhaite s'exprimer, il le peut très bien maintenant. Alors sinon... pardon.
Je pense qu'il convient, le professeur Fleury l'a rappelé, il n'était pas là à la première partie, mais je pense qu'il convient de rompre une lance en faveur de la première partie de la conférence qui était hier matin et où l'émergence de la sensibilité et de l'humanitaire, notamment parmi les pionnières femmes, a été relevée et l'émergence des congrès. Je pense qu'on ne peut pas terminer ce magnifique florilège fait par le professeur Fleury sans déposer cette dernière fleur, mesdames.
Alors, en concluant, je tiens encore à adresser mes remerciements à l'équipe de l'Institut d'Histoire de la Médecine de la Santé, le professeur Bernardino Fantini, Madame Dolores Martin Moruno, parce que c'est une entreprise nouvelle que nous avons lancée et pour nous une magnifique découverte du dynamisme du monde académique. Nous espérons vivement pouvoir continuer. Donc je tenais en premier à vous remercier. J'aimerais encore remercier, c'est formel, mais c'est quand même la réalité, l'État de Genève, la ville de Genève, la Fondation Wilsdorf, la Faculté de médecine, qui mettent une contribution matérielle, la Fondation Jantet, qui nous a reçus gratuitement. Sans ces soutiens financiers et matériels, on ne peut rien faire. Hein, malheureusement, et il faut rappeler les aides et les soutiens que nous avons reçus, ce qui me permet de rappeler aux conférenciers et aux conférencières que s'ils ont des notes de frais à nous présenter, ils peuvent nous les donner déjà maintenant ou nous les envoyer. On va encore rester quelques minutes, celles et ceux qui ont encore 3 minutes, on peut encore boire une tasse de thé ou un verre de vin blanc. On n'est pas chassé, donc ça c'est tout à fait possible. Sinon, n'oubliez pas de nous envoyer vite ces éléments financiers pour qu'on puisse les régler. Vous les envoyez de préférence à l'Institut de la médecine, mais vous pouvez aussi les envoyer à Genève Humanitaire. On fait de toute façon une caisse commune. Avant de partir, s'il vous plaît, toutes et tous, contrôlez que vous avez bien mis votre griffe dans le livre d'or. Pour nous, c'est aussi un souvenir. Puis c'est aussi un outil de communication, parce qu'après, quand je vais aller vers un fonctionnaire pour plaider l'étape suivante, je vais lui dire, vous voyez, il y avait du monde, il y avait des gens intéressés, etc. On vit aussi de ça, n'est-ce pas? Et c'est une réalité bien quotidienne. Vous avez vu qu'on a une table de publication qui est assez fournie, avec des prix qui défient toute imagination. Donc n'hésitez pas à vous fournir là. C'est aussi un point important. Vous évitez les frais de port, de pactage, etc. Puis c'est tout de suite réglé. Allez-y, s'il vous plaît. Je m'adresse aussi aux auteurs pour leur rappeler une date terrible. Le 15 avril, n'est-ce pas? Parce que nous aimerions vraiment sortir les actes de ces deux journées au début septembre prochain pour pouvoir les envoyer à chacun, pour pouvoir faire un tout petit peu à la fois d'émulation et de consolidation par rapport à la prochaine étape, parce que je vous rappelle que nous avons la joyeuse... un joyeux projet, ce n'est plus une utopie, de récidiver les 24 et 25 octobre prochains pour la tranche suivante, 1870-1918. Alors, c'est une tranche énorme, etc. Mais là aussi, nous aurons une foule de perspectives à ouvrir, de découvertes à partager. Et je ne peux que vous demander déjà de réserver des dates. Et celles et ceux qui mènent des recherches nouvelles, parce que nous essayerons comme c'est le jour d'être dans l'avant-garde de la recherche et de la démarche, eh bien, si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je crois que j'ai terminé avec les communications et je vous remercie encore de votre fidélité, de votre intérêt et de votre participation.